RMC, 19h-20h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct de Limoges, ce soir au terme de la quatrième étape du Tour de France sur les magnifiques routes limousines et sous le soleil retrouvé. Malheureusement, toujours pas de victoire d'étape française, mais alors on est passé à rien, hein, rien de cette première victoire pour Brian Coquard qui s'incline, battu pour quelques millimètres à peine par Marcel Kittel. On va évidemment revenir sur cette désillusion pour le jeune coureur de la formation Direct Energy avec toute l'équipe qui est rassemblée à mes côtés ou un peu plus loin. À mes côtés et dans... Il est quasiment en tenue d'Adam, notre magnifique
Cyril. On peut décrire à nos auditeurs le tableau qu'on a en face de nous.
Non, ne fait peur à personne.
Et bien, il a tout simplement, Cyril a tombé le maillot.
Il est pas mal quand même.
Il est pas mal. Un petit air de John Travolta.
Oui, c'est vrai, avec le peigne dans la poche, il est bien. Cyril Guimard, évidemment, qui a retrouvé le soleil, qui a donc décidé de tomber le t-shirt. Bonsoir, monsieur le druide. Vous êtes bien là, pas trop chaud?
Oui, bonsoir, messieurs.
Vous êtes magnifique.
Bonsoir, Thierry.
Bonsoir Cyril.
Comment ça va mon Thierry? En pleine forme, toi aussi?
Ah bah oui, ça va, un peu déçu.
Mais même, oui, forcément.
Même pas qu'un peu, parce que franchement, on est passé, bon, il est passé très 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 près.
Et on va y revenir évidemment avec Jérôme Pinault, qui est également avec nous. Jérôme, qui est probablement le plus déçu de nous tous, même si on est aussi déçu. Presque aussi déçu que Brian Coquard. Hein.
Ah,
Jérôme,
oui,
on rappelle
oui.
que tu es une sorte de grand frère de Brian Coquard, que tu le suis, que
ça
tu le coaches,
ça.
Que tu l'appelles tous les jours. D'ailleurs, tu l'as eu au téléphone après l'étape. Tu nous raconteras dans quelques instants ce qu'il t'a raconté. On va revenir sur cette étape donc et sur ce sprint échevelé dans la montée vers Limoges, un sprint donc en même pas en faux plat, c'était quasiment
une
petite bosse. Brian Coquard qui a tout fait pour tenter de décrocher sa première victoire d'étape, lui qui hier déjà avait signé la troisième place, était monté sur le podium, mais aujourd'hui il est passé à un rien puisqu'il a au terme d'un sprint incroyable remonté tous les gros culs du peloton, tous les grands sprinteurs, pour échouer pour un rien derrière Marcel Kittel, qui ne fait pas du tout le même gabarit que lui. Et ça s'est joué à rien. Il a fallu visionner à plusieurs reprises la photo finish, Jérôme, pour arriver à départager les deux hommes. C'est terriblement frustrant.
Oui, il avait choisi la bonne roue, Brian, puisqu'il a abordé son sprint dans la roue de Peter Sagan. Il savait que le Slovaque était certainement le grand favori du jour, le plus fort dans ce genre d'étape. Donc aucune faute de la part et de Brian Coquard et de son équipe. Aujourd'hui, la partition était parfaite et malheureusement, il vient échouer d'un rien, d'un demi-millimètre sur la ligne. Il est déçu parce qu'il savait que cette étape était à sa portée et il a toujours pas gagné sur une étape sur un grand tour et c'est ce qui lui manque. Il a pris un coup derrière la cafetière, mais je l'ai eu au téléphone 20 minutes après et ça y est, il était reparti. Demain, pas une étape pour lui, mais il pense déjà au prochain sprint. Donc, c'est reparti. Il est très frais dans sa tête et il a confiance, il sait qu'il peut gagner.
La faculté d'oublier ce genre de désillusion, Thierry, c'est souvent difficile à admettre. Hein. J'imagine que ce soir, au fond de son lit, il va revisionner dans sa tête les images de ce sprint en se demandant où il a perdu ce millimètre, ces quelques millimètres. Il faut du temps pour oublier ce genre de désillusion.
C'est clair, surtout quand on passe au millimètre. Donc là, c'est pas quand on est battu d'un vélo, un demi-vélo, on se dit, bon, ben l'autre était beaucoup plus fort. Là, je pense que, contrairement à Jérôme, je pense que la seule erreur qu'il a fait, mais comme moi-même, parce que j'avais pronostiqué Sagan, c'est de croire en Sagan, de penser que c'était Sagan qu'il fallait prendre, du moins, fallait prendre la roue de Sagan. Et s'il est dans la roue de Kittel, je pense qu'il arrive de beaucoup moins loin et il le saute.
Seulement, Bourgui, il me le disait au téléphone tout à l'heure. En fait, hier, il était dans le sillage de Kittel et il a vu que c'était un peu
un peu
bazar dans l'équipe éthique. C'était pas très bien organisé. Il a pas senti Kittel très en canne, donc il a choisi de changer de roue et finalement, il s'est planté. Mais
Jérôme,
c'est un choix d'un jour et tu sais, c'est jamais facile de.
Ah mais c'est clair, ça doit être très dur pour lui déjà. Mais même moi, j'avais regardé les classements. Hier il fait 7e, on se dit là il a une jambe de moins que les autres cette année, et puis on parie Sagan alors que j'ai parié deux jours de suite Kittel qui est passé à côté. Et bien sûr c'est
pas facile.
C'est Kittel qui va gagner.
Mais tu sais, Kittel,
donc Donc c'est vrai que Coquart, Brian, il pensait aussi que c'était la roue à Sagan, et je pense que tout le monde s'était trompé là-dessus. Mmh.
Comment on choisit la roue, Cyril? C'est en fonction des classements, fonction. Est-ce qu'on regarde à quelques kilomètres de l'arrivée
Je la connais, la réponse de Cyril. Oui, c'est la voie venir à 30 kilomètres.
Vas-y, donne-la.
Non, Cyril, il va vous dire, moi, j'avais pas besoin de choisir la roue puisque la bonne roue c'était la mienne.
Oh ah, il connaît bien son petit Guimard illustré, notre ami Jérôme.
Hein. Mais là, ça me fait penser à un footballeur qui jouait à Paris, non?
Non, je crois que Brian va refaire 50 fois le sprint. Vous savez, quand on est battu de, allez, on va dire 3-4 millimètres, ces 3-4 millimètres, on les a perdus partout. On peut toujours trouver un endroit où on les a perdus. Si on gagne, si on se met à la place de Kittel, lui, ces 3-4 millimètres, il les a gagnés partout. Donc, vous pouvez refaire le sprint dans tous les sens.
À la rigueur, il s'en fout, il a gagné.
Oui, et en plus, oui, mais non. Quand on a gagné, il faut savoir, quand on a gagné avec si peu, il faut quand même analyser pour éventuellement voir si t'as pas, toi aussi, fait une erreur qu'il ne faudrait pas reproduire. Donc, tout s'analyse. Quand on gagne, il faut pas dire qu'on a raison. Alors qu'on a toujours raison quand on gagne pour l'extérieur. Mais quand on a gagné, il faut analyser aussi qu'est-ce qui nous a permis de gagner et pourquoi, à la limite, on n'a pas gagné avec plus.
C'est comme ça qu'on apprend le plus, oui.
Mais oui, il faut toujours analyser, toujours avec un esprit critique. Sinon, vous ne pouvez pas progresser. Si vous êtes content de vous, non, vous régressez. On n'a pas le droit d'être content de soi. Oui, bien sûr. On va vivre l'événement comme quelque chose d'heureux, mais il faut rester critique. C'est indispensable.
Connaissant les tacticiens et les techniciens de cette équipe Quickstep et Tix, sans aucun doute il va y avoir un débriefing. On a filmé l'arrivée et Tom Stills, qui est le monsieur sprint chez Tix, va découper le sprint et décortiquer pour savoir pourquoi Marcel Sittel finalement s'est imposé avec si peu.
Je voudrais répondre quand même à la question, j'ai toujours pas répondu. Pourquoi il n'était pas dans la route Sittel?
On sait qu'il te faut un petit quart d'heure pour répondre aux questions.
Oui, mais moi j'aime bien
fois,
être précis.
Il passe par Paris, il redescend Limoges.
Non, alors on se met dans la roue qu'on peut, faut quand même le dire. Est-ce qu'il pouvait aller dans la route Sittel alors qu'il y avait déjà Sagan et Greipel qui se battaient? Bon, il a disparu après, mais il a disparu quand le sprint s'est lancé. Et si vous étiez un petit peu dans le sillage de Sittel, vous seriez rentré dans le cul de Greipel. D'accord, il est large. Mais en fait, il s'est trouvé relativement bien placé dans la roue de Sagan, qui s'est mis dans le vent. N'oubliez pas, il y a vent de face.
C'est vrai.
Il y a vent de face. Si tu sors trop tôt, il n'y a qu'un Kittel lancé par sa masse qui peut arriver à aller jusqu'au bout. Sinon, vous n'y allez pas. Donc, il est dans la roue de Sagan. Sagan prend de la vitesse. Il prend de la vitesse dans le sillage de Sagan. Et à ce moment-là, lui va fournir son effort. Et il est beaucoup plus vite. Il lui manque quelques millimètres pour passer. S'il avait gagné, on aurait dit il a fait le sprint parfait. Mais je pense que sur les erreurs, il y a peut-être...
Alors oui, tu nous parlais d'une petite dent de trop tout à l'heure.
Peut-être une dent de trop. Lui qui est un pistard avec qu'une dent de moins, il aurait giclé plus fort.
Oui, la dent de plus lui permet aussi d'aller et de remonter très vite quand même.
La fréquence de pédalage est telle sur le final qu'avec une dent de moins, il a passé.
Je pense qu'au 70 mètres, il baisse deux dents et pas une. Il faudrait revoir, il faudrait que je lui demande, mais c'est vrai qu'il est passé d'une haute cadence à beaucoup moins de cadence et c'est pas ce qu'il a arrangé, c'est sûr, avec son jump de pistard, avec sa vélocité. Peut-être qu'il a aussi perdu là, mais comme tu le dis, ça peut être partout et nulle part en même temps.
De toute façon, à chaque fois, ça ressemblait un peu à ce qu'il nous a montré sur les Champs-Élysées. Il revient de nulle part et il gicle d'une force
comme un pistard. Il vient dans l'aspiration.
Ouais. On va l'écouter tout de suite. Brian Coquart, évidemment terriblement déçu à l'issue de cette quatrième étape. On a vu une image tout à l'heure au moment de l'attente du verdict de la photo finish. Il était assis par terre. Ouais. Les mains rassemblées en train de prier.
Non, je pense que c'était plus une position de Bouddha.
Ah oui, de Bouddha.
Il invoquait les cieux, mais il m'a confié quand même qu'en passant la ligne, il savait qu'il avait fait deuxième et il espérait que le jury des commissaires n'ait pas vu la même chose que lui.
Évidemment, mais la photo finish est terrible pour ça. On écoute Brian Coquart, terriblement déçu à l'arrivée de cette quatrième étape où il termine deuxième dans la roue de Marcel Kittel.
J'y croyais dur, ouais. Et hier, Jimmy m'avait reproché de ne pas avoir assez lancé mon vélo à l'arrivée. Et là, j'essayais de faire le maximum, mais je voyais bien que je revenais, mais là, je suis très déçu. Voilà, maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il reste beaucoup d'occases. Voilà, on a pris les choses en main, on s'est mis à rouler dans le final. Chapeau Direct Energy Et je pense que je fais partie des grands maintenant.
Voilà, il dit je pense que je fais partie des grands maintenant. Jérôme, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Non, les grands, c'est quand on gagne, c'est ceux qui gagnent. Il pour l'instant, il a pas encore gagné.
Il est tout prêt, mais il est pas encore avec tous ces gars-là, parce qu'il s'est imposé. Tous ces garçons se sont imposés sur les étapes du Tour, et le Tour reste le palais des sprinteurs, le palais des grands, et il est à la porte. Il a mis un pied, il s'est fait claquer la porte au nez aujourd'hui. On espère qu'il va y arriver. Il est tout prêt. On n'est jamais passé aussi près autant de fois dans l'histoire, sans jamais une fois au moins aller en chercher une. Donc il va y arriver, mais pour l'instant non, il fait pas partie des grands. Il y a encore 2 mm d'écart entre lui et les grands.
Ouais, mais tu sais, Jérôme, je pense qu'Kittel a vraiment eu peur aujourd'hui. Hein.
Parce
qu'on se sentait vraiment inquiet sur la fin.
Ah, il n'était pas serein du tout en attendant le verdict.
Il balisait de faire encore un deuxième.
On va écouter maintenant Jean-René Bernaudot, le manager de la formation Direct Energy. Lui aussi, on y a tous cru. Hein, d'ailleurs, dans le direct, on a tous crié de joie parce qu'on avait vraiment l'impression que sur sa lancée, Coquart avait jumpé Marcel Kittel.
Là, c'est la fête qui parlait.
Oui, je pense que c'est la fête qui parlait.
J'en ai crié, j'ai dérangé Frédéric Adam. Ah oui, je m'en excuse.
Crime de lèse majesté. Si tu déranges Fred Adam pendant le direct, là il t'en colle une direct. Ah, la revanche d'il y a quelques années.
Il peut essayer d'en coller une déjà.
Il peut essayer.
On va donc écouter Jean-René Bernaudot, lui aussi déçu, lui qui a tout misé cette année sur Brian Coquart. Il y a cru, Jean-René Bernaudot.
Il y a eu une explosion de joie parce qu'on le voyait gagner. C'était le tour est gagné. Brian rentre chez les grands et puis après il y a eu un moment de silence. Photo finish, et là on était très inquiet, plus personne répondait, et confirmation, deuxième. Et on a vu la photo finish, il n'y a pas un boyau, c'est un peu comme les Champs-Élysées, la ligne était tracée 2 mètres trop tôt.
Voilà, ligne tracée 2 mètres trop tôt, Cyril, hein, avec 2 mètres de plus, il gagnait, hein, même avec 1 mètre de plus, normalement.
Oui, mais la ligne, elle est là.
Eh oui, la ligne est là, elle est terrible, cette ligne d'arrivée
voilà,
qui prend.
Il y a une photo finish,
sur la ligne.
Heureusement, hein, que nous, on a la vidéo, c'est pas comme dans d'autres sports.
Oui. D'ailleurs, est-ce que il est arrivé par le passé qu'il y ait égalité parfaite entre deux sprinteurs?
Oui, c'est arrivé, alors je n'ai pas en tête, mais c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait dit, oui.
Ouais, parce que là, on a photo finish, mais il faut vraiment une photo d'une qualité.
D'une qualité parfaite.
Ça se joue au millième
mais
de
seconde. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises, oui.
Ouais. Avant la photo finish, comment on est partagé?
On pouvait donner dit quand on était vraiment dans le doute.
Dit, c'est comme ça qu'on dit. Égalité.
Mais c'est dit, donc c'est
ex-aequo, quoi.
C'est ex-aequo.
Ouais.
Quand il n'y avait pas la photo finish et qu'il y avait vraiment un doute, on mettait. Ensuite, on essaye d'aller chercher le dernier poil, le dernier poil de barbe, le dernier cheveu visible. Sinon, effectivement, on met dit. Mais il y a quand même plus d'erreurs maintenant.
Ouais. Non, la photo finish est implacable. Vincent est avec nous au 32-16. Il voulait nous parler. Vous parlez, messieurs. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Vincent. Déçu comme nous de...
Déçu, mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il doit garder en tête, bon, il y aura la déception ce soir, c'est normal.
Oh, elle existe déjà.
Il était le plus rapide. C'est ça qu'il doit retenir. Et dans sa tête, il faut qu'il soit beaucoup plus fort pour... Voilà, il y a Montauban dans 2 jours où, voilà, même si ça sera moins dur l'arrivée, mais voilà, faut qu'il se fixe autre chose parce qu'il est jeune, il va progresser. Et est-ce qu'on... Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que Adrien Petit, Yvan Gene, vous n'avez pas pu être là avec lui aussi pour l'amener plus loin et lui éviter de prendre une roue. Parce que s'il veut rentrer dans les grands, il faut qu'il ait son train. Et pour gagner et pour ce millimètre de rien. Voilà, je pense qu'il manque. Voilà, il roule bien avant son équipe, mais il manque les deux qui peuvent l'amener jusqu'au bout, quoi, jusqu'au 200 mètres. Quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais il connaît les deux autres coureurs. Il peut en parler.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui c'était un peu différent. Aujourd'hui, on arrivait dans une cuvette où les trains n'avaient plus trop d'importance. Aujourd'hui, comme l'a dit Cyril, il fallait arriver avec l'aspiration d'arriver derrière et le train. En tout cas, le dispositif a très bien fonctionné aujourd'hui. On fait aussi avec les moyens qu'on a chez Jean-René, Adrien Petit, Johan Gen, Angelo Tulik. On fait un super boulot aujourd'hui. On peut pas leur reprocher grand-chose aujourd'hui. Les 4, 5, 6 premiers du classement aujourd'hui n'ont pas eu un poisson pilote jusque dans les 300-400 derniers mètres. Certes, hier peut-être, oui, je suis d'accord avec toi, hier il a manqué quelqu'un dans les derniers mètres, mais aujourd'hui c'était différent. Le dispositif c'était on emmène Brian jusque dans le bas de la cuvette et ensuite avec ses qualités de pistard et de punch, il devra le faire tout seul comme on fait seul beaucoup d'autres.
Et puis Sagan hésite, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, il part à droite, il part à gauche, il hésite, et lui garde la roue. Ouais. C'est peut-être l'hésitation de Sagan aussi qui fait manquer ce millimètre.
Et il y a une petite vague aussi, il fait une petite vague de trop, ouais, qui lui fait perdre un quart
on
de
peut aller les chercher partout, ouais, comme le disait le druide, hein, on peut aller les chercher, ouais, partout. Il y a aussi le fait qu'il change un peu de trajectoire sur les 10 derniers mètres, qu'il vient heurter Marcel Kittel un petit peu à l'épaule, il jette le vélo un peu de travers, il y a plein de choses qui quand on perd on peut essayer de chercher partout, mais le fait mais est qu'il
si
a
on,
qu'il
si
est
on
là,
veut hein. bien chercher si nous on a regardé que Coquart, bon ça il faut bien le dire, mais si on regarde par exemple le sprint de Kittel, peut-être que Kittel a aussi deux trois endroits où il aurait pu aller,
voilà, exactement,
ouais, peut-être fait pire même, ouais.
Vincent, je lis sur mon écran de contrôle que tu t'ennuies sur ce Tour de France pour l'instant.
Non, mais bon, c'est un début de tour.
Ouais, c'est classique.
C'est comme
hein.
tout le monde. Moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, je me suis mis devant la télé, dans les 10 derniers kilomètres. Voilà, c'est moi, j'adore le tour, j'aime les paysages, j'aime tout ce qui se passe. Voilà, à partir de demain, on va pouvoir arriver à une belle étape. Je pense qu'il y a tout pour les baroudeurs. Et à partir de ce week-end, ça va être plus sympa. Voilà, je m'économise.
C'est comme ça qu'on finit le tour.
Faut faire ménager sa monture.
Faut faire la sieste pendant quelques heures.
Petite question, écoutez RMC.
Ouais, non, mais... C'est ça.
Voilà, bon. Parce que sur RMC, on s'ennuie pas, hein, je vous le dis, moi.
Bon, merci Vincent, en tous les cas, d'être venu au 32-16 et à très bientôt, évidemment, dans l'intégral tour. Vous nous appelez au 32-16 où vous réagissez par Twitter sur l'hashtag RMC Live. Voilà donc victoire de Marcel Kittel. On va aborder justement le cas de ce grand sprinter allemand qui décroche là son 9e succès sur les routes du tour. Il avait fait 4 victoires en 2013, 4 en 2014. C'est la première cette année. L'année dernière, il n'était pas présent sur les routes du tour. On va parler de Marcel Kittel, on va parler aussi du gabarit. Quel est le gabarit idéal pour remporter les sprints du Tour de France? On a vu que Kittel et Coquard n'avaient pas tout à fait les mêmes mensurations. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h sur RMC pour l'intégral Tour de France en direct de Limoges. À tout de suite.
RMC, 19h-20h, intégral Tour, Christophe Sessieux.
L'intégral Tour de France, ce soir au terme de la 4e étape, nous sommes à Limoges, où Marcel Kittel s'est donc imposé devant Brian Coquart. Peter Sagan prend la 3e place de ce sprint, et au classement général, il n'y a pas beaucoup de changements, puisque Peter Sagan conserve le maillot jaune ce soir. Il s'élancera donc demain à l'assaut du Massif Central avec la tunique de leader sur les routes du Tour, devant Julian Alaphilippe, qui pointe ce soir avec un retard de 12 secondes. Alejandro Valverde, l'Espagnol, est 3e à 14 secondes. Et Warren Barguil, un autre Français, est 4e à 18 secondes. On va reparler de tout ça dans quelques minutes pour évoquer l'étape de demain qui nous fait saliver, parce que là, on va entrer dans une autre dimension. C'est la dimension de la montagne. C'est pas encore les Pyrénées, c'est pas encore les Alpes, mais c'est déjà le Massif Central. Et il y a de quoi faire demain après-midi pour cette 5e étape. Auparavant, on va revenir tout de même sur le vainqueur du jour, Marcel Kittel, l'Allemand de 28 ans, qui n'est pas un débutant sur les routes du Tour, loin de là, puisqu'il en est déjà à 9 succès d'étape en 3 participations, je le disais, 4 victoires en 2013, 4 victoires en 2014 et déjà une victoire cette année. D'habitude, il débute bien le Tour, là il a eu un peu de mal, il a joué un peu le diesel depuis le début de ce Tour, mais là le diesel semble un peu mieux réglé, même si il y a encore certainement, tu le disais Jérôme, des choses à améliorer pour être plus impressionnant comme il l'a été en 2013-2014 par exemple.
Oui, d'autant plus que l'étape de Utah Beach était vraiment la meilleure étape pour lui. Il nous avait démontré par le passé qu'il s'imposait plus facilement sur les sprints à plat que sur les sprints comme aujourd'hui un peu plus en bosse. Mais c'est vrai que Marcel Kittel a étendu un peu son champ d'action et aujourd'hui il a été à la mesure dans ce sprint, il a été à la hauteur maintenant. Bon, c'est vrai qu'il a mis un peu plus de temps à mettre en route, mais c'est une équipe aussi qui doit se retrouver. On a changé de sprinter vedette, on n'a pas le même train, donc il faut retrouver un peu ses automatismes. Et bon, là, il a gagné aujourd'hui. Est-ce qu'il est parti pour une série de 4, puisqu'on sait que quand il gagne, il en gagne ou pas, ou 4. Donc, on va voir. Et pour le moment, en tout cas, ça fait une pour l'équipe de Patrick Lefebvre, qui commençait un peu à grincer des dents ce matin. Je l'ai croisé, il n'était pas très content.
En plus, Patrick, je crois qu'hier soir, ils étaient dans le même hôtel que celui de Peter Sagan, ancien coureur de Mark Cavendish, pardon.
Exact.
Ancien coureur de l'équipe de Patrick Lefebvre.
Quelque part, il a fait un choix.
Il a offert le champagne, il n'a pas voulu aller boire un coup, Patrick Lefebvre.
Ah, ça m'étonnerait pas.
Sa religion lui interdit, sans doute.
Non, il est surtout soulagé. Il est surtout soulagé, je pense, parce que... son équipe a l'habitude de gagner beaucoup d'étapes sur les étapes du, sur le tour, et en venant avec un sprinter comme Kittel, il s'imaginait gagner un peu plus vite, je pense. Ouais.
Alors Cyril, il est parti pour une série, Marcel Kittel. Hier, on se posait la question de savoir si Cavendish était de nouveau le meilleur sprinter de la planète. Là, il a quand même remis les choses au point, Marcel Kittel, en s'imposant aujourd'hui, et notamment en devançant ses rivaux habituels, c'est-à-dire Greipel, Sagan et autres Cavendish.
Oui, alors c'est qui le meilleur sprinter du monde?
Ça dépend des jours.
Ça dépend. Oui, non, mais ça dépend des jours, ça dépend des types de parcours, de l'intensité de la course, de quelques petites erreurs qui peuvent être faites.
Mais c'est vrai que le profil aujourd'hui n'était pas forcément le sien, idéal pour lui.
Alors, moi, je vous arrête, messieurs, parce qu'il s'est imposé déjà lors d'un Tour de Picardie. C'est pas le même niveau que le Tour de France, on est d'accord, sur ce genre d'arrivée, mais surtout lors de la deuxième étape du Tour d'Italie qui est arrivée aux Pays-Bas cette année, sur la même arrivée, un grand boulevard qui montait comme ça, et il avait déjà gagné sous ce type d'arrivée. Donc il progresse, c'est vrai, il progresse dans ces arrivées-là, parce que il étend son champ d'action, parce qu'il y a quelques années, il ne gagnait pas ce genre d'arrivée. Donc il est un peu plus fort en montée. Alors qu'est-ce qu'il a fait de plus ou de moins pour il a peut-être perdu un peu de poids.
Mais vous
pour
avez être peut-être oublié Cavendish. Et c'est Cavendish qui revient au plus haut niveau, c'est tout.
Ah oui, aussi, la concurrence est.
Alors, la réponse pour qu'il gagne.
Cavendish qui termine 8e aujourd'hui. Oui.
Il reste 5 étapes pour les sprinters, et encore pas sûr que. Sur
donc
ces 5 étapes.
Tous, bon. Pratiquement.
Oui, mais.
Non, parce qu'il y en a une pour Coquart, Bourgui.
Déjà. T'as dit 4 qu'il n'en gagne pas.
Mais non, parce qu'il y en a une pour Greipel, une pour Coquart.
Non, on partage pas.
Et il y a Christophe qu'il ne faut pas oublier, qui monte toujours en puissance sur les grands tours. Même s'il semble.
Il a un temps. Il a un temps.
Ah bah là, il peut
lui,
que
hein.
monter en puissance, là, parce que pour l'instant, il n'est pas au top, l'ami.
Il y a les patins de frein bien bloqués, là, quand même.
Bon, mais il reste 5 étapes où on peut supposer une arrivée au sprint.
Donc
il ne les gagnera pas toutes les 5. Hein.
Non, je ne pense pas.
Non, mais c'est combien
que
son compteur, il les bloque à 4
habituellement, en 2013 et 2014, c'est 4 victoires.
Si on lui
en
laisse 3 sur 5, ça va encore.
Mais la montagne arrive vite cette année, et Kittel, il laisse beaucoup de plumes dans la montagne.
Ouais. Alors, on va s'intéresser au gabarit idéal des sprinters. C'est vrai que lorsqu'on regarde Coquart et Kittel l'un à côté de l'autre, on n'a pas l'impression qu'ils font partie de la même famille des coureurs cyclistes. Il y en a un qui mesure 1m69, c'est Brian Coquart. Pour 56 kilos, c'est son poids de forme
c'est
sur
ça, actuellement
les routes
56,
du Tour. Ouais. Et puis Marcel Kittel, lui, mesure 1m88 et je ne sais pas combien il pèse, mais enfin, il doit quand même être lourd, même si...
il doit rendre facilement 15 kilos à Brian, ça c'est sûr.
Il doit flirter avec les 80.
Ouais.
Alors, peut-être pas tant, Cyril.
72, 13, non?
Non, plus. Non, il fait 1m88 avec
88,
avec des épaules de déménageur.
Oui, c'est sûr. Et des belles cuisses aussi, hein.
Voilà, et des cuisses de sumo.
Ça pèse.
Alors, quel est le meilleur gabarit pour emporter des
Il n'y a pas
de gabarit. Alors,
ce qu'il faut pour...
de Normand.
Mais non, je vais faire une réponse beaucoup plus
tu
précise.
Tu vois bien qu'il n'y a pas de gabarit, Christophe, regarde. Voilà.
Cyril, c'était un peu Brian Coquart des années 70, quoi.
Il passait sous les bras.
sous les bras d'Eddie.
Bah oui, ils n'avaient qu'à pas lever le bras.
De l'adversaire.
Non, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller vite, il faut... une structure musculaire adaptée. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un maximum de fibres rapides. Si vous avez 10% de fibres rapides, vous ne serez jamais un sprinter. Un sprinter, c'est quelqu'un qui a au moins 40 à 50%. Donc ça veut dire que la moitié...
Comment on les fabrique ces fibres
rapides? Ah ben, elles sont génétiques, mon
c'est
cher.
Génétique,
alors non, elles ne sont pas tout à fait génétiques, puisque
y a
vous avez...
Il qui peuvent changer, non c'est
vous,
ça
vous avez la partie de ce qu'on appelle les fibres neutres, qui, en fonction du type d'entraînement, donc de la sollicitation que vous allez leur donner, peuvent effectivement muter en fibres rapides ou en fibres lentes. Les fibres lentes, c'est ce qu'ont les rouleurs contre la montre. Et éventuellement, les grimpeurs.
Et donc ça c'est génétique, ça t'a ça à la naissance ou
t'as
tu l'as
ça
pas,
à la naissance, la puissance. Ouais. Alors et en principe c'est couplé avec la capacité de décharge d'hormones comme l'adrénaline. Donc un rouleur a beaucoup moins de fabrique beaucoup moins à l'instant T d'adrénaline qu'un sprinter.
Très bien. Thierry, t'es impressionné par Marcel Kittel. Il te plaît, ce Marcel Kittel, c'est le playboy du peloton. Il faut vous dire qu'ici,
on n'est pas obligé d'être... Non, attends.
Non, toi, on est admiratif de ses victoires. admiratif de ses victoires et de son gabarit, parce que gabarit, c'est vrai, 1m88, il en impose déjà. Et puis, pour moi, oui, je le donne dans les meilleurs. Il le dit tous les jours. 77 victoires déjà. Donc, il a le palmarès qui parle en sa faveur. Après, le gabarit, comme dit Cyril, le gabarit, ben la preuve en est, lui est très costaud. Coquard l'est beaucoup moins, et pourtant, c'était au millimètre que ça s'est passé sur une arrivée comme aujourd'hui. Et la première étape, eh ben le Cave, qui est aussi un petit gabarit, lui est passé devant. Et devant des Greipel qui est encore un peu plus énorme, parce que
le gorille est impressionnant. Jérôme, est-ce que Marcel Kittel peut rêver de ramener un jour un maillot vert sur les Champs-Élysées, où son exercice de prédilection, les sprints lancés comme ça, et seulement là-dessus l'empêche de
c'est compliqué de prétendre un maillot vert. C'est compliqué parce qu'il faut être plus complet, il faut bien passer la montagne sans laisser trop de plumes, mais surtout il faut aller aussi maintenant avec ce nouveau règlement chercher des points dans les sprints intermédiaires en montagne et en moyenne montagne, donc ça risque d'être compliqué pour Kittel, et en plus c'est un garçon qui a du mal qui finit très peu les grands tours, donc moins on en finit et moins on peut espérer finir le tour, parce que c'est le plus dur des trois, et en plus il demande encore plus de forme et de force en montagne notamment, donc difficile d'imaginer que Kittel puisse aller chercher le maillot vert sur les champs, parce qu'avec son gabarit lui pour le coup il est vraiment pas avantagé en montagne.
Honnêtement je pense qu'il peut pas, parce que Sagan est plus jeune que lui.
Bien sûr,
Sagan est plus coquard même. Je pense que Coquard est plus à même.
Brian passe mieux les bosses. Il faut quand même savoir que Kittel, si vous lui mettez deux taupinières dans les 5 derniers kilomètres, il n'est pas au sprint, quoi. Vous lui mettez deux bosses d'un kilomètre à 8% et vous l'avez pas aux 200 mètres. Hein.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Et c'est comme ça qu'on comprend mieux que demain, il faut pas le mettre dans le pronostic.
Non, demain, oui, on le mettra pas dans le pronostic. Si on veut espérer gagner le classement des paris d'RMC. Sportbet sur le hashtag RMC Live nous dit, d'après un site sportif bien connu, Marcel Kittel mesure 1m89 et pèse 86 kilos. Ça m'étonnerait quand même qu'il pèse, en tout cas, sur les routes du Tour.
Il a plus un profil de première ligne au rugby que de coureur cycliste. Hein.
Bertrand est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Nantes, la région de... Il n'y a que des Nantais dans cet intégral tour. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Dream Team.
Il faut couper la télé.
Ah, oui, non, il faut couper la radio parce qu'on entend effectivement d'où. Bertrand, impressionné par Marcel Kittel ?
Bah oui, parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le final. Justement, on parle beaucoup de gabarit, mais on s'attendait pas à ce que Kittel réussisse un sprint comme ça sur une bosse avec qui faisait combien 4-5%. On s'aperçoit qu'il y a vraiment pas de règles hein, chez les sprinteurs. Il y en a qui passent des bosses alors qu'ils devraient pas passer. Quand on parle aussi de montagne, un Greipel passe beaucoup mieux la montagne qu'un Kittel, qu'un Cavendish qui est léger, qui passe beaucoup moins bien aussi qu'un Coquard. C'est il y a pas de règles hein, dans le sprint finalement et dans le gabarit.
Bon, en tous les cas, tu restes optimiste pour Brian Coquard. Tu penses que Brian peut aller chercher une victoire d'ici la fin de ce Tour de France?
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui finit bien l'année dernière. Il finit deuxième au champ. Je pense qu'au niveau de la montagne, il va pas perdre énormément de jus. Il y a encore de la place pour lui pour gagner des victoires. Enfin, on l'espère, parce qu'aujourd'hui, je pense que en tant que supporter de Direct Energy et même pour lui, je pense qu'il a les boules, quoi. Donc non, c'est d'ici la fin du tour, je pense que voilà, je suis assez optimiste pour lui pour en claquer une belle.
Eh ben, on l'espère évidemment avec toi. Merci Bertrand d'être venu au 32-16. Cyril, tu disais 5 étapes encore pour les sprinteurs. Laquelle correspondrait le mieux au profil de Coquard pour s'imposer, lever enfin les bras en vainqueur sur les routes du Tour?
Honnêtement, c'est difficile de répondre parce que qui y aura après les Pyrénées?
Oui. Il risque d'en avoir un peu moins.
Bon, est-ce que Kittel sera encore là? Est-ce que
Cavendish ne devrait pas être là?
Cavendish sera encore là. Et puis j'ai presque envie de dire, je touche du bois, est-ce que Coquard sera encore là? Donc il est difficile de se projeter au-delà des Pyrénées aujourd'hui, mais Montauban me paraît une étape relativement favorable à Brian.
Voilà, Montauban ce sera
Montpellier ce sera ce sera différent.
Ouais, Montpellier, c'est vraiment pour les grosses cuisses du peloton. 19h38, on revient dans un instant pour la suite de l'intégral tour. On va s'intéresser à l'étape de demain, 216 km entre Limoges et le Lioran. La montagne arrive très rapidement cette année sur les routes du tour, le massif central. Il y a de quoi s'amuser demain après-midi. On vous en parle dans un instant. Et puis les paris, on va voir qui est en tête du classement des paris ce soir à l'issue de cette quatrième étape.
RMC, 19h20, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la dernière ligne droite de cette Intégral Tour ce soir, en direct de Limoges, au terme de la quatrième étape du Tour de France, remportée, on vous le rappelle, par Marcel Kittel, devant Brian Coquard et Peter Sagan, qui reste évidemment en jaune, mais qui va probablement perdre sa tunique de leader demain, au terme de la cinquième étape, qui va donc conduire le peloton de Limoges jusqu'au Lioran, une station du Massif Central, car le Tour de France entre dans la montagne. On va tout de suite accueillir Benji, parce qu'on va parier sur cette étape et on va vous la présenter. Benji, les paris.
Les paris les RMC.
BMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Bonsoir monsieur Ramagé.
Bonsoir messieurs.
Alors, quel est donc le premier leader? Parce qu'hier, quand même, tu as fait un énorme frustré en la personne du druide Cyril Guimard, qui pensait avoir pris la tête du classement général dès la première étape. Mais non, le règlement en a voulu autrement. Alors, ce soir, se rapproche-t-il de la tête de la course?
Ouais, alors, personne n'a trouvé la victoire de Marcel Kittel, mais pour consoler un petit peu Cyril, il avait donné, en ta compagnie Christophe d'ailleurs, Brian Coquard pour la victoire. Comme Coquard est deuxième, vous partagez le maillot vert. Alors, je vous laisse vous débrouiller pour savoir qui le portera ce soir et demain.
On n'a pas la même taille de maillot, hein. C'est un peu compliqué, oui.
Mais en tout cas, vous êtes tous les deux maillot vert. Alors comme Cyril a parlé en premier et qu'il était un peu vexé hier, je vais lui laisser porter le maillot vert.
Je vais lui laisser, le maillot
plus
vert.
Plus tu gueules, plus t'as raison.
Oui, mais c'est comme ça que ça se passe, tu sais, c'est toujours les râleurs qui s'imposent. Alors Benji, on va revenir dans un instant sur les principales côtes des favoris pour demain, mais on va aussi parler des côtes justement qu'il faudra escalader demain au terme de cette cinquième étape. Il y en a quand même un peu partout, ça ressemble à un petit peigne cette étape du Lioran. Ça commencera dès les premiers kilomètres avec la côte de Saint-Léonard de Noblat. On passera chez Poupou, chez Raymond Poulidor, et puis un peu plus tard le col du Puy Saint-Marie, c'est le Pas de Pérol, c'est ça?
Non, le col du Pas de Pérol, c'est le Puy-Marie. C'est plus tard dans l'étape, d'accord. C'est le début du final.
Le col de Néron en troisième catégorie, le Puy-Marie effectivement en deuxième catégorie, le col du Pertus et le fond de Serre avant de monter jusqu'au Lioran. Il y a de quoi faire, hein, Jérôme, demain pour tout le monde. Hein.
Oui, il y a de quoi faire, surtout que sur les routes aussi bien de la Haute-Vienne que de la Corrèze, puis du Cantal, on sait que ce ne sont pas des routes qui rendent, comme on dit, c'est plutôt très usant. Ça ressemble un peu à ces étapes qui arrivaient à Saint-Flour où Richard Virenque s'était imposé, ou Luis Leon Sanchez aussi s'était imposé. C'est le genre d'étape où, en général, ça castagne et ça fait beaucoup de dégâts.
Beaucoup de dégâts, donc a priori, Peter Sagan, Cyril devrait laisser son maillot jaune demain soir. Pas possible de passer ça?
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Sagan, on l'a vu dans certaines circonstances, passer d'école. Non pas sur la grande bagarre, mais ce ne sont pas des cols qui sont terribles. À part le col de Pertus, là où on a 4,5 km à 8% de moyenne.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Oui, mais ça, il passe. Hein.
Oui,
de quoi non, ça, il peut passer.
Il passe, ça, là.
Ça dépend s'il y a la bagarre. S'il y a la bagarre,
c'est très dur, Cyril.
Ça m'étonnerait qu'il reste dans les roues, là.
Et puis, là, demain, son équipe ne va pas s'occuper de lui.
Oui, mais il a le maillot sur le dos. Il a le maillot sur le dos, il peut s'accrocher, ouais. Il revient dans la descente. Il a du métier quand même, hein. Faut quand même pas l'oublier. Pour l'instant, il est encore maillot jaune, hein. Et puis, il a encore, on va dire, un petit kilomètre de descente au cas où il basculerait à 15 ou 20 secondes. Il a un matelas quand même de à peu près de 18 secondes sur les favoris du tour, à l'exception de Valverde, puisque Valverde est à 14. Alaphilippe est à 12. Il a encore un petit matelas, tout dépend qui gagne l'étape. Non, moi je ne mésestime pas ce coureur, il est champion du monde.
On l'oublie pas, oui. Il est capable de s'imposer sur quasiment tous les terrains, Peter Sagan, sauf peut-être dans les grands cols. Mais ça,
il ne perd pas le maillot, c'est il gagne l'étape alors.
Non, parce qu'il ne faut pas qu'Alaphilippe soit Alaphilippe est à 12 secondes.
Oui,
donc,
sans compter un coup qui part
même
de loin.
Même si Alaphilippe fait 3, il reste...
Valverde est à 14 et Barguil à 18, hein, donc ouais. Il va falloir qu'il fasse une très belle montée quand même.
Ouais. Moi, je pense que c'était un peu optimiste.
Moi, je
pour
dis, il ne faut pas l'éliminer d'entrée comme ça, sous prétexte qu'on dit qu'il n'est pas grimpeur. Moi, je l'ai vu passer des cols devant.
On l'a vu tous passer des bosses,
vu passer des cols devant quand il fallait aller chercher les points du maillot vert.
C'est vrai.
Oui, s'il n'y a pas la bagarre.
Alors, la bagarre ou pas la bagarre demain, messieurs? Bagarre pour le classement général. Est-ce que Christopher Froome, qui a pris l'habitude lors des premières étapes de montagne de montrer qu'il était le patron du Tour de France, va demain montrer le bout de son nez, ou alors c'est encore un peu tôt pour lui? Thierry, qu'est-ce que tu en penses?
Non, je pense que le général va pas se jouer demain. Hein. C'est, je pense que c'est
non
une...
pas se jouer, mais
non,
est-ce
non,
que...
mais bon,
y a
les leaders des équipes qui jouent le classement général vont pas se découvrir demain, ou alors vraiment que c'est ceux qu'on va laisser sur le bord de la route. À la rigueur, c'est ceux qui vont avoir un coup de fringale, des coups comme ça, un coup de moins bien. Mais je pense que dans les meilleurs, on les retrouvera tous à peu près aux mêmes places. Hein. Je pense pas que demain il y ait une équipe ou un coureur qui puisse se lancer dans une attaque sur une étape comme ça. C'est pas assez dur pour faire péter les meilleurs de la roue. Je pense pas. Hein.
Ouais,
franchement, je me trompe. Un outsider qui prenne un petit coup de loin et qu'on laisse faire, mais j'y crois pas.
Non, moi je suis d'accord avec toi, Thierry. Il y aura pas de grosses batailles, de grosses guerres entre les favoris. On est très loin de l'arrivée à Paris. L'étape est difficile, mais ce ne sont pas des grands cols où on peut faire de grandes différences. Donc, pour moi, on va plutôt se regarder entre favoris. Par contre, l'échappée a une grande, grande chance d'aller au bout demain.
Ouais. Et puis, il y en a qui vont peut-être souffrir. Alberto Contador avait l'air un petit peu mieux aujourd'hui. Mais demain, quand ça va monter, on est à combien? Trois jours?
On ne peut pas faire de pari là-dessus. Mais moi, je dis que demain soir, le Tour de France pour Alberto Contador, il est plié.
Ah ouais?
Il est pas assez remis, je l'ai vu tirer la langue aujourd'hui sur les routes du Limousin. Demain, quand tu es pas bien, que tu as mal encore, tu peux prendre un ticket méchant et un ticket retour vers l'Espagne.
Alors, si vous avez bien remarqué, Contador, aujourd'hui moins parce qu'on n'avait pas des images assez précises, mais hier, il s'arrangeait pour tourner à 70 tours sur le plat. Hein.
Il met du braquard.
Ce qui veut dire qu'il peut pas tourner vite les jambes.
Donc pas bon signe pour demain.
Ça veut dire qu'il a des douleurs musculaires.
Ouais.
Voire tendineuses.
Donc inquiet pour Contador, il risque de passer par la fenêtre.
Ce qui risque de se passer demain, c'est que effectivement tout le monde sait que Contador, il est pas à 100%. C'est qu'on fasse rouler vite dans les montées les équipiers
pour l'éliminer.
Non, et puis si Nibali est pas bien,
la course par élimination peut commencer demain.
Voilà, elle commencera demain en faisant des tempos suffisamment élevés pour voir qui est bien, qui n'est pas bien. Et s'il y en a un ou deux qui, comme disait Jérôme, tirent un peu la langue, eh ben on leur fera mettre la langue dans le pédalier. Hein.
Ouais, c'est le genre d'étape où tu ne peux pas gagner le tour, mais tu peux montrer que tu ne le gagneras pas. Et moi, je pense que certains vont montrer déjà quelques limites demain. À commencer par Contador, qui ne m'avait pas l'air très bien. Quid de Nibali? Je ne l'ai pas vu à la fête sur la montée vers Cherbourg-Octeville, qui était pourtant une arrivée pour lui. On verra demain, mais... En tout cas, sur ce genre de terrain, on peut pas se cacher. Si on n'est pas bien, ça se voit tout de suite.
Alors, pense qu'il faut se méfier de Nibali, parce que j'ai l'impression que, alors, où il cache vraiment son jeu, parce que on n'entend pas parler de lui, il se met dans l'ombre de Harou.
On n'entend pas beaucoup parler d'Harou non plus, hein, Bourgui.
Oui, t'as mais remarqué. Il est placé au général.
On entend parler de pas grand monde dans les classements généraux. Froome, on n'entend pas parler. Quintana non plus. Pour l'instant, ils n'ont pas montré.
Oui, il faut vous rappeler que la dernière semaine est terrible.
Oui, c'est ça.
Alors, donc, il y a les Pyrénées et après,
il n'y avait pas un endroit depuis le départ de ce tour où les favoris du tour pouvaient se découvrir. Bon, il y avait l'arrivée à Cherbourg. Enfin, même les grands grimpeurs sur cette arrivée, ils vont pas battre. D'ailleurs, ils l'ont pas fait.
L'année où Nibali gagne le tour, il s'impose à Leeds à la deuxième étape sur un peu le même genre de parcours aussi.
Mais demain, il peut le faire.
Non, quand il sort en contre sur le plat et on le laisse partir et il va gagner l'étape.
Oui, mais c'était dur, Cyril, déjà. C'était une étape accidentée.
Mais il avait personne sur le paletot.
Exact.
Bon, alors il y en a un qu'on attend évidemment côté français, c'est Julien Alaphilippe. Philippe. On le disait tout à l'heure, il est deuxième au classement général, à 12 petites secondes seulement de Peter Sagan. L'autre jour, il avait été très déçu lorsque Sagan l'avait battu. Est-ce que l'étape de demain convient à ses qualités? Thierry, on va commencer avec toi, toi qui étais un grimpeur affirmé du Tour de France.
Non, mais je pense qu'on attend peut-être un peu trop d'Alaphilippe. Cette étape, certes, c'est moyenne montagne. Je pense que c'est il a montré par les derniers temps qu'il était capable de, il avait été explosif, qu'il était capable d'aller chercher une deuxième place comme avant-hier. Mais je sais pas. Maintenant qu'il est placé au général, je sais pas quel rôle son équipe va lui donner. Est-ce que on va essayer de jouer le général le plus longtemps possible, ou est-ce que comme demain on va essayer de passer à l'offensive et essayer d'aller gagner cette étape? Moi je sais pas. J'aurais tendance à jouer à la Philippe, et je me dis que sur un parcours comme ça, je vois bien, comme Jérôme l'a dit, un coup partir de loin est très difficile d'aller chercher.
Donc là-dessus, l'équipe, son équipe sera la première à laquelle on va aller voir pour contrôler la course demain, parce que ce soir, à peine après l'arrivée, Lefebvre a déclaré qu'il était content d'avoir gagné une étape, mais ce qu'il visait maintenant, c'est le jaune. Donc
c'est affirmé.
C'est le jaune.
Alaphilippe est le leader.
Non, vous oubliez Dan Martin.
Non, mais Dan Martin, mais je pense qu'il parle de Alaphilippe pour le jaune pour demain. Ça veut dire que demain, l'équipe éthique, ça va,
quand
elle
va 12
pas laisser
secondes.
Partir facilement.
Martin, il est
et elle va au moins essayer de contrôler.
Secondes, hein, il est pas très loin non plus.
S'ils veulent essayer de contrôler demain, il va falloir qu'ils condamnent les échappées. Ça va pas être facile.
On va écouter tout de même Julien Alaphilippe évoquer l'étape de demain. Il la regarde tel un chat qui regarde une souris, cette étape.
Ouais, je suis super content d'avoir le maillot blanc une journée de plus. Aujourd'hui, c'était une étape destinée aux sprinteurs. On est passé un peu à côté hier avec Marcel Kittel, mais voilà, on a vraiment débriefé sur l'étape d'hier, et aujourd'hui, on a appliqué à la lettre ce qu'on devait faire, et je suis super content pour Marcel qui remporte l'étape. Super content de l'équipe, et voilà, c'est une journée de plus en blanc, pas de temps de perdu au général. Donc chaque jour, je profite, et on va voir demain.
On va voir demain, donc, nous dit Julien Alaphilippe. L'étape, justement, on va parier sur cette étape. Benji, quelles sont les cotes des différents favoris pour demain?
Eh bien, Christophe, bravo, puisque le grand favori de l'étape, c'est Julien Alaphilippe, tout simplement. Il est à 6, juste devant Alejandro Valverde, qui est à 8, et Peter Sagan, qui est à 8,50. Et après, on retrouve Daniel Martin, Michael Matthews. Moi, je vais tenter un gros coup de folie d'entrée de jeu. Je vais essayer de placer une attaque au général dans les paris RMC. Je vais tenter un coureur dont Jérôme a évoqué la candidature tout à l'heure. 4 victoires sur le tour, et souvent accompagné de Jérôme dans des échappées sur le tour. C'est Luis Leon Sanchez, et la cote, elle est à 80.
Ah voilà,
Moi j'ai aussi.
Si ça rentre, ça, t'es maillot jaune jusqu'à Paris. Hein.
Moi je vais te dire, je vais faire encore plus fort que toi, et tu vas aller chercher loin pour savoir si même il est coté. Parce que moi demain, je joue vainqueur Yon Izagir, qui a pris un ticket l'autre jour à la suite d'une chute, mais il n'est pas tombé, il a pris un éclat sur la route du Tabitch. Il est à 6 minutes 50 au général, c'est le mieux placé pour prendre une échappée des outsiders du tour, et c'est un coureur qui est très en forme puisqu'il vient de terminer deuxième du Tour de Suisse dans l'équipe Movistar. Chez Movistar, on roule jamais et on met toujours un coureur devant dans les échappées. Yon Izagir,
donc, pour Jérôme Pinault. Cyril Guimard.
À vous l'honneur, Christophe.
Non, moi je suis dans les roues. Tu sais, bon, on va demander à Thierry. Moi je suis.
C'est 200 la cote d'Izagir.
Moi je suis loin de vous.
Non, moi voilà. je vais jouer Julien Alaphilippe. Moi j'espère qu'il va, ouais. il va en claquer une. Voilà.
Bon. Alaphilippe, parce que je pensais un temps à Vaucler qui part de très loin, mais même si c'est vrai que c'est plus le très grand Vaucler, je pense qu'il va nous faire un coup d'ici dans ce tour. Mais comme hier, je m'étais mis dans la tête autre chose que ce que j'ai joué, ouais. Je vais pas changer. Alaphilippe.
Très bien, Julien Alaphilippe pour Thierry Bourguignon, Cyril Guimard,
Valverde. Le premier français.
Alejandro Valverde, souvent battu Alaphilippe, évidemment. Nous verrons ça demain. Merci messieurs pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, le retour de l'intégral Tour de France, c'est donc demain à 15h pour cette cinquième étape du Tour de France. La montagne nous gagne. En attendant, Florent Gautreau, c'est le France-Allemagne qui le gagne.
Exactement.
Et aujourd'hui, un Allemand a battu un Français. Donc on espère que ça va s'inverser jeudi. Hein.
Et d'un boyau, j'espère que ce ne sera pas la malédiction qui va continuer, celle de 2014. Merci à toute l'équipe. En tout cas, effectivement, l'intégral UEFA Euro 2016 arrive. On va parler des Bleus. Effectivement, on sera avec un invité exceptionnel. C'est David Trezeguet, qui va nous parler des Bleus. Donc à deux jours de ce choc France-Allemagne, les dernières infos avec Jeannot Rességuier et puis nos débats du soir. Umtiti ou Rami en charnière centrale? Eh bien, vous pouvez appeler au 32-16 pour nous dire qui vous préférez voir dans cette charnière de l'équipe de France. Et on va aussi parler de Portugal, Pays de Galles et puis un peu de Ligue 1. L'OL, l'Olympique Lyonnais au programme ce soir. On va faire un point mercato. À tout de suite.